France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Jean-Jacques Antonov, donc je suis né à Cannes en 1945 et je suis musicien, c'est-à-dire j'ai été violoniste, je continue un petit peu et je suis chef d'orchestre.
Parle du travail et du violon, Jean-Jacques Cantoroff. Oui. Vous avez eu ce passage au Conservatoire de Paris, qui certes a été court, parce que vous avez galopé peut-être plus vite que d'autres, mais enfin c'est quand même la rencontre de René Benedetti, qui n'est pas n'importe qui était un homme qui était né en 1901, donc là aussi vous disiez que vous aviez connu un peu à la fois le 19e et en même temps le 20e siècle, à travers les professeurs également, évidemment, ce sont des gens qui ont des histoires, qui jouaient avec Navarra,
c'est tout une...
Trio avec, voilà, le fameux...
Le BBN.
C'est voilà. Ça. J'aurais aimé vous entendre nous raconter ce que c'était qu'une leçon avec René Benedetti et plus tard évidemment aussi avec Joseph Calvet, qui sont deux figures quand même
très
importantes.
Très emblématiques.
Oui, très emblématiques. Alors, vous avez 13 ans à l'époque.
Alors Benedetti, c'était phénoménal. C'était, je veux dire, au point de vue violon, on peut comparer Benedetti à une technique de Heifetz avec un son de Thibaud. Donc, magique, on ne pouvait pas rêver de mieux. La facilité même, une justesse extraordinaire. Alors, il avait une patte, c'était des boudins, donc c'était des... Il arrivait difficilement à faire un ton sans pousser les doigts, donc c'était vraiment une très très grosse patte. Le jeu phénoménal, d'ailleurs, tous ses collègues disaient, vous voulez jouer juste, vous allez chez Benedetti. Donc, c'était connu. C'était un monsieur qui avait ce talent absolument exceptionnel. D'ailleurs, c'est les enregistrements, je regrette que sa fille adoptive n'a... Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que elle avait une dent contre son beau-père. Elle n'a jamais voulu finalement qu'on republie tous les enregistrements. Et il y a des chefs-d'œuvre, il y a extraordinaire film, une centaine de disques. Bon, c'était des disques 78 tours, mais avec tout cela, on fabrique quand même pas mal de 33 tours et donc de CD. Vous savez qu'il donnait des concerts. Avec dans la même soirée, il y avait les 6 sonates et partitas de Bach et les caprices de Paganini. Donc c'était des intégrales, mais hallucinantes. Enfin, personne aujourd'hui ne pourrait rivaliser avec ces marathons musicaux et violonistiques.
Comment il enseignait ce naturel alors, qu'il avait alors?
Mais il ne l'enseignait pas. C'était encore un problème. C'est-à-dire,
vous avez accumulé les professeurs qui avaient trop de talent inné et qui ne savaient pas le faire
exactement.
Passer.
Exactement. Mais entre les deux, je vous raconterai le ranking. Et donc, il disait, mon pif est comme moi. Je me souviens même de cours, certaines fois, qu'il donnait, ça lui arrivait de donner chez lui, bon, quand il devait assez descendre en vélo au conservatoire. Et je me souviens d'aller prendre des cours à 9h du matin chez lui. Donc, il m'ouvrait, bon, il arrivait avec son café. Puis il me dit, attends, une petite minute là, laisse-moi quand même, alors, me chauffer. Alors, il ouvrait sa boîte de violon, il sortait son Strad, que j'ai eu après, j'ai racheté ce Stradivarius. Qui était un arlequin, c'est-à-dire la moitié était faite par Vuillaume, la table était de Vuillaume et le dos était de Stradivarius, qui était un instrument qu'il avait racheté, lui, à Maurice Vieux, l'altiste célèbre, qui avait été son professeur de musique de chambre. Donc voilà, la passation de cet instrument. Je veux dire, le son qui était imprégné, c'était quand on jouait ce violon, on jouait Benedetti. Hein, donc il y avait quelque chose d'absolument magique. Donc, il prenait ce violon, il descendait 3-4 caprices de Paganini, mais tout était absolument impeccable. C'était comme s'il s'était chauffé pendant 2 heures. Puis, bon, vas-y, tu prends ton violon, tu peux y aller. Alors, on ne savait plus quoi faire parce que c'était étonnant, mais...
Est-ce que l'imitation, ça marche en termes d'enseignement?
Non, mais ça marche et ça marche pas. Ça marche parce que quand on a un son dans l'oreille, on a envie de le retrouver. Donc c'est là, ça c'est la magie, c'est que le son de Benedetti, j'ai toujours dans l'oreille. Je ne m'en suis jamais séparé. Il y a cette lumière, cette transparence, cette facilité, ce chant, ce vibrato. c'est exceptionnel. Alors, ça ne veut pas dire que je l'ai, mais ça veut dire que je l'ai dans, ça fait partie de mon ADN.
C'est une quête aussi, d'une certaine façon.
Oui, c'est une quête, parce que c'était pas valable pour tout, mais il y avait tellement d'harmoniques, il y avait tellement de respiration dans le son. J'ai des souvenirs aussi de concerts qu'il donnait. On était subjugué parce que sans aucun effort, le son passait. On voit très souvent des violonistes qui veulent passer, on dit dans une grande salle, lui, pas du tout, il jouait avec du bout des doigts et tout passait. Donc ça, le timbre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parliez d'éducation, je reviens à Laurent King. Et Laurent King, donc...
Replacez-nous dans le contexte. Laurent King donc, n'était pas inconnu de votre père.
Non, puisqu'il avait été dans le même camp de prisonniers. Et Laurent King disparaît. Bon, il a été professeur à Arras. Il était violon solo à Lille, je pense. C'était un élève de l'Intaluel. Et donc, il connaissait bien Juliette Neveu, parce qu'ils avaient été collègues. Donc, voilà. C'était cette génération-là. Et quel que soit fût son talent, il a sauvé la vie de tas de gens, y compris de Galois-Montbrun d'ailleurs, qu'il l'a ramassé sur la route, parce qu'à l'époque, ceux qui étaient faibles, Galois-Montbrun était faible avec les privations, puis il était très grand. Il allait tomber et être liquidé par les Allemands, il l'a soutenu, il l'a porté. Donc, il a eu la Légion d'honneur, Mitterrand lui a remis, parce que un abbé qui l'avait connu au camp a dit « mais ce type-là a sauvé des tas de vies ». Et donc, sur le tard, Mitterrand lui a remis la Légion d'honneur. Et donc, il rencontre mon père à Nice, et il y avait une grosse moto énorme. Et mon père le voit, il me dit « mais Laurent ?» Et il descend de sa moto, il s'embrasse, et il dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « je vends du poisson sur le marché ». Il dit « comment ?» Il dit « mais toi musicien, enfin, tu as été... » Il dit « oui, mais ma femme a des ennuis de santé, il fallait vraiment qu'on aille vers le sud, j'ai quitté mes positions, bon, ben, voilà, je vends du poisson sur le marché. » Et il lui dit « bah, écoute, viens à la maison, d'ailleurs mon fils fait un peu de violon, j'aimerais bien que tu l'entendes. » Il m'entend, et mon père, voyant très bien qu'au conservatoire, mon professeur ne m'alimentait pas véritablement. Donc, il sentait que peut-être j'avais besoin d'un support, et puis il voulait faire plaisir à son ami, et lui donner de l'argent de façon, détournée, mais aristocratique. Et donc, il lui dit « écoute, viens lui donner quand même quelques cours ». Et là, j'ai souffert de martyr, parce qu'en fait, il est allé véritablement dans les détails pour dire « oui, mais là, ça c'est pas bien, tu fais pas bien ça ». Donc, il m'a appris surtout à inventer mes exercices et à comprendre le travail du violon.
À vous approprier, finalement, peut-être.
M'approprier l'instrument, simplement parce que lui, c'était un besogneux, c'était exactement le contraire. Donc, il lui fallait des heures et des heures pour arriver à faire quelque chose. C'était pas un naturel, mais il y arrivait. Mais c'était pas magique. En plus, bon, il était énorme, il transpirait énormément. Le personnage, il avait une tête un peu de bulldog. Il était fort sympathique, mais bon, c'était plutôt un peu terrifiant qu'autre chose. Et puis, c'était tellement différent de ce que j'avais au conservatoire, qui était la facilité, qui était le charme, qui était la pochette, qui était le... voilà. Et quelque part, je subissais ça un petit peu en me disant, oh là là, mais puis, c'était pas une heure, hein, quand il restait, c'était deux heures, trois heures, mais bon, il a eu jusqu'au bout des choses. Mais il m'a appris la chose la plus essentielle, c'est de fabriquer ses propres outils. C'est-à-dire savoir ce qu'on veut et savoir comment fabriquer les outils pour y arriver. Et ça, c'est magique. « suis un autodidacte, enfin, mis à part les cours que j'ai reçus jusqu'au moment où je suis rentré au conservatoire. Je suis sorti du conservatoire, je n'ai plus jamais eu de professeur. Donc j'avais 14 ans, j'étais livré à moi-même. À cette époque-là, j'aurais souhaité travailler avec des grands. Les grands, c'était Heifetz, c'était Oistrakh, c'était Frances Gatti, c'était Milstein. Donc voilà. Je me souviens, ma mère a écrit d'abord une lettre à Heifetz, donc l'université de Californie. Jamais de réponse. Bon. On a essayé de voir du côté Oistrakh. À l'époque, il y avait des échanges entre la France et la Russie qui avaient été commencés. Donc, il y a eu deux Françaises qui étaient allées travailler à Moscou, Claude Maco, puis je ne me souviens plus de l'autre, mais qui ont été invitées à travailler à Moscou. Mais la réciprocité n'a pas été valable. Donc, il n'y a pas eu de Russes qui soient venus travailler à Paris. Et le résultat, c'est que l'échange était bloqué. Donc, Oistrakh, il fallait oublier. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on a écrit à Frances Gatti. Et j'ai reçu une lettre de Madame Frances Gatti, la mère, qui a dit, Zino a été mon élève, si vous voulez, moi je vais vous... Elle dit, bon, c'est peut-être pas exactement ce que je souhaitais, c'était vraiment Frances Gatti que je souhaitais, Zino, pas Madame Maman. Donc, on n'a pas poursuivi. Et Milstein, je me souviens d'avoir joué pour lui au cloître de Cimiez, parce que donc c'était l'époque Calvé, j'avais suivi les cours de Calvé, et comme j'étais une des gloires locales, on m'a demandé de jouer concerto de Brahms avec orchestre, et Milstein faisait des masterclass que je n'ai pas suivi, mais il était dans le jury, dans le public, pardon, je veux dire. Puis il écoute le concerto, et nous avions une amie qu'on appelait Tante Vera. Tante Vera, c'était Vera Kogan. C'était la tante d'une amie de ma sœur qui avait été professeure de piano à Saint-Pétersbourg avant que ça ne s'appelle Leningrad. Donc vous voyez, ça remonte à loin. Et cette dame qui parlait un français roucoulant, délicieux, mais c'était un bonheur. Alors quand vous me parlez d'attache russe, la Russie pour moi c'est elle. Oui. Parce que je retrouvais la Russie des familles, la Russie des salons. Cette dame avait fréquenté tout cela. Et donc, ça se sentait, ça se transpirait, ça se transmettait. Et elle parlait russe, donc elle s'adresse à Milstein. Elle lui dit, bon voilà, Jean-Jacques cherche éventuellement un professeur. Et bon, tout le monde est sorti, il restait Milstein. Moi, il me dit, bon, joue-moi un bar. Alors, je lui joue l'adagio et la fugue de la première sonate. À la fin, il me dit, écoute, quand on joue une fugue de Bach comme ça, on n'a pas besoin de professeur, donc va travailler tout seul. Et quelque part, je me suis dit, bon, il est en train de me démettre. Bon, c'était une façon très polie de dire, bon, c'est très gentil, mais merci beaucoup. Et quelque part, ça m'a beaucoup appris sur effectivement ce que doit être un violoniste, ce que doit être un musicien en général. C'est-à-dire, on doit se faire.
Quelqu'un d'autonome.
C'est complètement autonome. Le professeur n'est là que pour mettre le pied à l'étrier, pour éventuellement procurer quelques raccourcis, comprendre certaines choses, faire comprendre un univers, faire comprendre une ambiance, mais tout le travail est personnel. C'est-à-dire qu'un un son, ça ne se crée pas, ça se vit, ça se crée dans le sens où on le projette, mais il faut l'avoir en soi, et donc il faut savoir ce qu'on veut produire, et puis on le trouve, quel que soit l'instrument d'ailleurs, même s'il est, il vaut mieux avoir un Stradivarius ou un de Jésus qu'une croûte, mais c'est pas l'instrument. Ce qui est important, c'est ce qu'on a en soi. Et la technique, elle ne s'apprend pas. Elle ne s'apprend pas. Pour moi, un pédagogue qui formate, on peut faire, mais c'est une fin. C'est-à-dire que c'est, en général, on enferme l'élève dans un carcan, puisqu'on lui fournit tous les éléments, on le forge, et il n'arrive pas à s'en sortir. Il a beaucoup de mal à s'épanouir parce que, on lui a dit, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il ne se pose jamais la question. Et quand il se la pose, c'est trop tard pour changer. Quand on voit tous les grands musiciens, il n'y en a pas deux qui se tiennent de la même façon. Il n'y en a pas deux qui ont la même technique. Donc, c'est savoir utiliser
son corps,
ses moyens, se comprendre. Et c'est là que King m'a apporté cette philosophie qui m'a poursuivi tout le temps et qui m'a aidé considérablement, et ça a été mon meilleur professeur.
Thank you.
France Musique. Les grands entretiens de Jean-Jacques Kantorov.
Vous avez aussi bénéficié, Jean-Jacques Kantorov, des conseils de Joseph Calvet, grand quartettiste, et j'imagine une toute autre personnalité que celle de Benedetti.
Je passerai peut-être un petit peu sur le côté humain, parce que c'était un homme qui, à cause de la maladie, a été obligé de s'arrêter. Et entre l'ego dont il avait besoin pour vivre et le fait qu'il était handicapé, voilà, ça fait un mélange qui n'est pas toujours plaisant. Cela dit, c'était un faux intellectuel. Hein. Attention, quand il se mettait à parler, on s'apercevait qu'il n'y avait pas une énorme culture. Alors il s'appropriait des tas de choses. Par exemple, la fameuse soirée de la mort de Proust, où il demande à entendre un quatuor, donc il s'est attribué. Or, c'était le quatuor capé. Donc, c'est pour citer certains travers de Calvet. Ce qu'il voulait, c'était se raconter, dire quelque chose et dire « Vous voyez que j'ai raison, c'est comme ça qu'il faut faire. » On allait à un cours, on faisait quelque chose, il disait quelque chose qui, certaines fois, était très intéressant. Mais certaines fois, on jouait pas différemment, on jouait la même chose exactement. Il disait « Vous voyez, c'est nettement mieux. » Donc, il y avait un côté complètement hors de propos. C'était pas un enseignant, mais par contre, alors d'abord, ses disques étaient extraordinaires. Et puis, il avait des formules. Par exemple, pour lui, le quatuor, c'était un instrument à 16 cordes. Donc, merveilleux, mais d'en parler comme cela. Donc, il avait une façon de parler. Par exemple, il demandait à ce qu'on n'arrête pas l'archer. Une fois, on jouait les silences. Il disait, jouez toujours les silences. C'est-à-dire, en fait, un silence est habité. Et non seulement il est habité par le souffle, mais aussi par le geste. Donc, il insistait sur un geste qui continuait, c'est-à-dire qu'il fallait, il y avait une sorte de chorégraphie. Donc, des éléments qui ont été aussi très marquants, parce que c'était des formules et qui laissent des traces. Cela dit, malheureusement, je ne peux pas dire que ce fut un très bon enseignant. C'était un grand musicien. Mais voilà, ça ne suffit pas. Mais il avait une classe qui était une classe de prestige. D'ailleurs, il était le seul professeur du conservatoire à faire ses cours chez lui. Il avait le droit. Donc, il n'allait jamais au conservatoire.
Je suis content et heureux de te retrouver ici.
Monsieur Joseph Calvet, professeur au Conservatoire de Paris, donne un cours de style et d'interprétation.
À Jean-Jacques Kantorov en 1968.
Parmi les jeunes violonistes, les concours internationaux très brillants, tu fais des concerts à l'étranger avec beaucoup de succès. Eh bien, je vais t'écouter dans la fugue de la sonate en sol mineur de Bach. Joue-moi la fugue. J'estime que les silences ont une grande importance en musique. Tu ne penses pas le demi-soupir. La fugue commence par le demi-soupir. Et le demi-soupir va pousser la coche. Comment peut-on le faire en faisant un sautillé comme tu le fais du milieu? Fais-moi un marcelé, une chose sérieuse à la pointe. Non. La réponse n'est pas bonne. Elle n'est pas dans l'esprit de l'exposition du sujet. La réponse n'est pas bonne. Sol, fa, mi, fa, je n'aime pas ça. Ça devient un peu brutal, ça ne garde pas le style du départ. Tu pars en guerre? Non, tu ne pars pas en guerre. Donne-moi trois. Les trois sont ensemble. Ensemble, les trois sont.
Il y a aussi un professeur dont on n'a pas encore parlé et qui va compter, parce que vous allez même être son assistant, je pense. C'est Jean Hubaud.
Ah oui. Alors, Jean était une personnalité très riche maintenant. D'abord parce que il aimait beaucoup ses élèves. Il avait une classe, il adorait sa classe. Chaque élément de sa classe, c'était presque un choix. Alors, il s'est trouvé que je l'ai eu comme professeur parce que j'avais fait du trio à New York et j'avais adoré. Je m'étais dit, bon, c'est quel merveilleux répertoire. Et puis il s'est trouvé que
trio à cordes ou trio avec piano.
Donc Narine Barrette était une des premières lauréates du concours de Leeds, du premier concours de Leeds. Et en rentrant, je reçois un coup de téléphone du conservatoire de Calvin Brun qui me dit, mon petit, voilà, écoute.
Le petit, il a quel âge à ce moment-là?
Le petit, il avait 25 ans. Bon, c'était affectueux parce que il me connaissait depuis très longtemps, donc voilà. Voilà, je suis avec deux de tes collègues, Jacques Rouvier et Philippe Muller. Et il y a un concert dans très peu de temps à Paris, et on n'arrive pas à joindre le violoniste, c'était Serge Garcia. Est-ce que tu voudrais faire du trio avec eux ? Et comme le trio était dans ma tête, j'ai dit, oui, puis j'en connaissais un tout petit peu. J'ai dit, pourquoi pas ? Et il m'a dit, bon, dans 15 jours, concert à Gaveau. Et on s'est retrouvés, c'était assez amusant, dans la maison de Cochereau. Parce que Cochereau était directeur à Nice, c'était un grand ami, il avait été même le témoin de mon premier mariage. Donc voilà, donc c'était un proche. Et donc on a travaillé dans la foulée 9 trios. Et on a commencé comme des voleurs, donc à donner des concerts, mais ça se passait très très bien. Et on est resté voilà, amis pendant, on a joué pendant plus de 30 ans ensemble, 35 ans au moins.
Terminer un peu, Jean-Jacques Kantorov, tout ce qui est de l'ordre des études, il y a une période qui est quand même, chez vous, assez conséquente, hein, qui est une période de concours, où 62, 67 10, et même 70, oui. Il y a des concours, Londres, le concours Thibault, Paganini à Gênes, Sibelius, vous l'évoquiez, Helsinki, Genève, Montréal, la reine Elisabeth de Belgique, voilà, et puis donc le concours de musique de chambre de Colmar, ça c'est 70. On a le sentiment que c'est une sorte de nécessité pour vous. Qu'est-ce que vous y cherchez ? C'est une course au laurier, une reconnaissance, des rencontres, le besoin de se mettre à l'épreuve, le goût du risque, c'est quoi ?
Tout ça. Non, il faut dire, à l'époque, faire carrière, c'était extrêmement difficile. C'est-à-dire, où on avait les liens avec aussi les décideurs. Et les décideurs ne nous connaissaient pas. C'est pas comme aujourd'hui où vous avez tout sur le net, vous mettez YouTube, vous pouvez voir qui vous voulez, vous pouvez avoir des coups de foudre pour n'importe qui. Bon, donc ça a rien à voir absolument. Mais la seule façon, je dirais, pour quelqu'un qui n'était pas du milieu, qui n'avait aucun contact, parce que je n'en avais que par mes professeurs.
Il fallait vous montrer quoi.
Il fallait, à l'issue des concours, il y avait quand même la possibilité d'avoir des concerts. Donc c'était la seule survie. Donc je passais ça, c'est comme ça que, bon, alors j'ai gagné Carflèche, j'ai fait quelques concerts effectivement en Angleterre grâce à ça. J'ai gagné Paganini, j'ai trouvé un impresario en Italie, donc j'avais quand même 3-4 concerts par an. C'était le début d'une alimentation. Genève ne m'a rien rapporté, même si je l'ai gagné. Et puis les autres concours, j'en ai plus su finalement avec la Reine Elisabeth, où je n'étais que 6e. Parce que les premiers étaient soit du bloc Est, donc ils étaient interdits de voyage pour la plupart. Hirschhorn a été en maison de fou, enfin donc c'était épouvantable. Guillaume Kremer, bon à l'époque on aura passé d'autres, et puis il n'avait pas encore les portes de sortie qu'il y a aujourd'hui. Donc en fait j'étais le premier lauréat disponible. Donc j'ai eu beaucoup de concerts. C'est moi qui ai fait tous les concerts des lauréats à cette époque-là. Donc ça m'a permis de jouer avec l'orchestre de Liège. Et donc on a fait pas mal de tournées.
Comment vous les financiez tous ces voyages pour aller un coup à Helsinki, un coup à Montréal? Un coup à Gênes, à Londres.
Mes parents m'ont aidé, bien sûr, mais il y avait des bourses.
L'Allegro aperto du concerto Köchel 219 de Mozart par Jean-Jacques Kantorov et l'orchestre de chambre néerlandais dirigé par Léopold Hager. C'est ainsi que se referme le 3e épisode des Grands Entretiens avec le violoniste et chef d'orchestre français. Réalisation Lionel Quentin. Prise de son Yves Lehors, mixage Olivier Dupré, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.